C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Je veux revenir sur l'accident hier, ce délit de fuite, alors qu'un cycliste, un homme de 31 ans, a perdu la vie. C'est malheureusement un rappel brutal de ce qui se passe dans les rues de Montréal chaque jour. Je ne connais pas encore les détails. Est-ce que c'est un véritable délit de fuite? Est-ce que c'est quelqu'un qui a frappé et qui s'en est pas rendu compte, un cycliste? L'enquête va le démontrer. Mais ce qui est important, c'est la cohabitation. Et tous les jours, quand vous circulez à Montréal, vous êtes témoin de pratiques. Puis là, il ne s'agit pas de diviser les gens puis de faire le camp des cyclistes puis le camp des automobilistes, mais de comportements à risque et d'attitudes en vélo et au volant qui, malheureusement, se terminent par des tragédies comme celle d'hier. On ne sait pas ce qui est arrivé hier, j'insiste là-dessus, là. Puis je vais vous donner un exemple très personnel. Moi, j'habite un endroit, puis c'est une côte qui descend. Et pour me rendre sur la voie publique, là, comme telle, pour tourner à droite, je dois traverser une piste cyclable. Il n'y a personne qui a d'arrêt. Difficile de voir arriver les vélos, particulièrement quand il fait noir, parce que il y a des arbres, puis il y a des feuilles. Puis là, vous devez traverser la piste cyclable, puis c'est une voie dans les deux sens. Puis il y a des piétons à travers tout ça, là. Puis t'as des cyclistes. L'autre matin, je pars assez tôt, je traverse, il fait noir, hein? Puis un vélo qui s'en vient assez vite. Il n'y a pas de lumière, il y a des vêtements sombres. Je l'ai vu, mais quelqu'un qui ne prête pas attention. Je parlais avec Bénédicte tantôt, la même expérience lui est arrivée en quittant son domicile. Tout ça pour dire qu'à Montréal, c'est compliqué de circuler. C'est compliqué parce que il y a des chantiers, il y a des piétons, il y a des gens à vélo, il y a des poids lourds, il y a beaucoup de livraisons, il y a des gens pressés, il y a des gens qui sont stressés, il y a des irritants avec des détours. Tout ça, en résumé, c'est un appel à une forme de patience, de civisme et, je dirais, de surveillance, d'autosurveillance. Puis je veux pas avoir l'air de moraliser ce matin, mais quand vous pratiquez les deux, là, vous faites un peu de vélo, vous êtes en voiture, vous êtes piéton, on est capable d'observer les comportements. Puis les fameuses traverses de piétons dont on parlait il y a quoi, 2 ou 3 semaines, c'est fondamental de permettre aux gens de traverser, puis de leur laisser le temps de traverser, puis de pas avoir l'air impatient, même si vous êtes hyper pressé. Un an après la mort de Joyce Echaquan, il y aura des cérémonies aujourd'hui commémoratives pour la communauté de Manawan. Également le gouvernement du Québec qui va souligner la journée. Il y a un lieu qui sera consacré à la mémoire de Joyce. Il y a eu beaucoup de développement, cette enquête évidemment publique sur les circonstances qui a permis d'illustrer cette forme de racisme à l'intérieur du réseau de la santé, donc des gens qui traitent hommes, femmes, patients autochtones. Et quand vous regardez les différentes réactions depuis la fin de semaine, c'est un événement électrochoc qui a permis de prendre conscience de la réalité de ces patients. Ça a amené le départ du PDG de la région parce qu'il y avait d'autres incidents qui avaient été rapportés. Et peut-être que la grande leçon de toute cette histoire-là, c'est une prise de conscience collective du sort réservé aux Autochtones, et on peut l'élargir avec toute l'histoire des pensionnats. Hier, je voyais les évêques catholiques, après les excuses officielles de vendredi, annoncer qu'ils vont remettre 30 millions au cours des 4-5 prochaines années. Il y a bien des questions à poser aux évêques. Le texte des excuses est clair. La raison de cette campagne de levée de fonds et de remise aux Autochtones, on précise, là, ce seront des projets élaborés en collaboration avec les Premières Nations. Très bien, mais il ne faut pas que ça vienne escamoter le reste. Bien sûr que la plupart des prêtres aujourd'hui n'étaient pas impliqués dans ces dossiers-là. La plupart. Mais il y a une responsabilité qui incombe à l'institution. Je vais en reparler avec Mgr Poisson un peu plus tard ce matin, qui de la Conférence des évêques du Canada. Parlons vaccination. D'abord, vous remarquez peut-être les chiffres. Toujours important, le tableau. On est à 89 % des Québécois qui ont une première dose et 84 % des gens qui ont maintenant deux doses. On donne l'exemple ce matin d'un jeune homme que vous allez voir dans le Journal de Montréal et dans la presse. Un jeune homme qui est en pleine forme, en tout cas d'après ce que ses proches racontent, et qui malheureusement est décédé, foudroyé, vacciné une fois, donc première dose, n'a pas eu la deuxième. Et malheureusement, donc, il est mort des suites de la COVID. Et ce qu'on remarque, on le sait maintenant de plus en plus, ce sont des jeunes qui sont hospitalisés et qui, comme ce jeune-là, va être assez longtemps, malheureusement, à l'hôpital, donc passer beaucoup de temps à être traité. Alors, bref, il est décédé et on voit par contre que le nombre de cas se stabilise. Il faut être prudent, bien sûr, parce qu'il y a encore des éclosions potentielles. Je voyais ce matin des éclosions dans Chaudière-Appalaches, dans Le Devoir, là, dans deux résidences pour aînés. Et la vaccination continue d'avancer. Et le 15 octobre, ça s'en vient quand même vite. Quel sera l'impact sur le réseau de la santé? C'est toujours étonnant de voir des gens qui travaillent à l'hôpital pas vouloir être vaccinés. Puis là, il y a beaucoup d'infirmières auxiliaires, un bon nombre de préposés aux bénéficiaires. Je vous parlerai également plus tard cette semaine de ce qui se passe dans les résidences pour personnes âgées qui anticipent là, des ruptures de services parce qu'il va manquer de personnel. Il y a une propriétaire qui m'a écrit puis qui me raconte un peu les défis auxquels elle sera confrontée. C'est, j'ai une préposée, elle veut rien savoir. Puis elle a décidé qu'elle ne se fera pas vacciner. Fait qu'elle dit, j'ai pas le choix que de l'envoyer chez elle. Mais j'ai personne pour la remplacer. Puis le CIUS qui est supposé m'appuyer, ben ils n'ont pas plus de monde. Ils cherchent à combler des postes de préposés. Fait que c'est bien clair que les prochaines semaines, en termes de service à la population, ça risque d'être, disons, roulé fer sur fer. Là. Ça va être assez carré. Et l'autre chose, j'ai reçu deux, trois témoignages, là, puis il y a encore un hier. Bon, vous illustrez la situation. Vous êtes personne âgée, vous recevez des soins à domicile. Personne âgée vulnérable sur le plan physique, là, des problèmes de santé, puis des personnes âgées nerveuses avec tout ce qui arrive. Vous avez droit à vos opinions, là, mais vous n'êtes pas obligé de les emmerder avec vos pensées anti-vaccins. C'est ça que vous pensez, c'est ce que vous croyez, vous êtes là-dedans, parfait. Êtes-vous obligé de convertir? Surtout quand vous êtes sur les heures de travail, puis surtout quand vous soignez des gens vulnérables. Il y a la fille d'une patiente comme ça, d'une bénéficiaire qui m'a envoyé un message, puis je vais le résumer bien vite, là. Elle dit « Ma mère est traumatisée depuis la visite de la personne qui est venue lui prodiguer des soins parce que là, elle lui a dit qu'elle avait eu le vaccin, elle avait mal au dos, puis qu'elle avait des séquelles de ça, puis qu'elle ne dormait pas la nuit, puis que c'était épouvantable, puis qu'elle était pour perdre sa job, puis parce qu'elle voulait pas avoir la deuxième dose. » Puis bon, on est dans ça, là. Fait que la propagande autour des écoles, des hôpitaux, puis encore pire, à l'intérieur des maisons, de la part de gens qui vont là pour soigner, moi, j'ai bien de la misère avec ça. Je trouve que ça, c'est un genre d'abus. Et juste rappeler qu'on n'a pas à endurer ça. On n'a pas à subir ça. C'est des missions de propagande, là. Puis quand je vois l'école comme telle, là, dont Elisabeth parlait tantôt, puis le ministère de l'Éducation est intervenu. Mais tu sais, vous avez des gens qui sont connus comme des militants anti-vax, puis qui vous cherchent 50$ pour vous embarquer dans leur patente d'école à la maison. Et je vais en reparler avec Elisabeth tantôt, mais le message du ministère, c'est « OK, t'enseignes à la maison, parfait, mais il faut que tu passes les examens pareil si on veut valider la formation. » Alors voilà pour le dossier COVID ce matin. Bon, avez-vous hâte de recevoir votre compte de taxes municipales? Mm-hmm. Et quelle sera l'augmentation du compte de taxes? Pourquoi? Parce que le rôle d'évaluation commence à être publié. Longueuil, des auditeurs qui est propriétaire d'un petit duplex qui ont fait le saut. Laval également, qui a présenté son rôle d'évaluation. Et le secteur résidentiel a pris, disons, des hausses importantes depuis 3 ans. Personne n'est vraiment surpris, là. On a vu l'espèce de spirale inflationniste avec la pandémie. Et à Laval, je voyais ça dans la presse ce matin, la valeur moyenne d'une maison est passée de 360 700 à 441 000. Il y a 10 ans, la même maison avait une valeur de 255. Fait qu'en 10 ans, là, c'est passé de 250 à 440. Alors, c'est sûr que c'est un profit intéressant, mais toujours la question qui suit. Vous vendez avec un gros profit, vous allez payer probablement quelque chose de neuf, en fait, une nouvelle propriété, avec un prix élevé. À moins que vous décidiez d'aller du côté de la location. Et là, les gens reçoivent ça, puis là, ils se disent, ça va être épouvantable, c'est une hausse de taxes de combien? De 22, 23, 24, 25 %. Alors, c'est sûr que ce seront aux élus de fixer le taux de taxation. Puis habituellement, on l'ajuste pour pas qu'il y ait des augmentations draconiennes comme ça. Et des augmentations, là, qui vont saigner les gens. Est-ce qu'il y aura une réduction suffisante du taux de taxation pour éponger cet impact, cet effet là, de la hausse de la valeur de votre maison? J'ai hâte de voir ça. J'ai bien, bien hâte de voir ça. On est en campagne électorale ou municipale. Ce serait bien d'entendre les partis, les candidats-candidates, Montréal, Longueuil, Laval et ailleurs, prendre des engagements clairs là-dessus. Parce que je vous dis, là, les gens reçoivent ça, puis ils sont un peu beaucoup, disons, en état de choc. Et s'attendent à voir le compte de taxes exploser. Puis malgré ce qu'on nous dit à chaque fois, pardon, tu sais, la fameuse hausse moyenne, là, mais comme me disaient des auditeurs, comment ça se fait qu'on n'est jamais, nous autres, dans la hausse moyenne? Comment ça se fait que nous autres, c'est toujours plus que la moyenne et que l'augmentation est quand même importante? Maintenant, l'inspectrice générale de la Ville de Montréal a présenté son rapport, Brigitte Bishop, et la STM se fait pointer du doigt concernant des contrats qui ont été octroyés après un appel d'offres, puis que la facture finale a explosé. On n'est pas retourné en appel d'offres. On donne un exemple. Un contrat de 400 000 qui a été accordé à une division de Novexco pour du matériel de bureau. Et ça a augmenté de 336 %. Là, on parle de crayons, de stylos, de règles, de casse d'écoute, de calculatrices. 1,7 million. Contrat pour du mobilier. Puis là, on va dire, ouais, mais c'est parce qu'on en a acheté plus. Il y a toujours des bonnes raisons. Mais là, c'est parce que tu n'es pas capable de le prévoir dans l'appel d'offres que tu fais. C'est ça qui est un peu beaucoup étonnant. Groupe Ameublement Focus, mobilier de bureau, augmentation par rapport à l'appel d'offres de 96. On est passé de 7,6 millions à 18 millions. Et le problème, pas le fournisseur, le problème, c'est la STM quand vient le moment de déposer son appel d'offres. Un. Et deux, quel message t'envoie aux compétiteurs? Si je sais ton besoin est réel, m'a peut-être faire ma stratégie pour répondre à ton appel d'offres de façon différente. Mais là, ce qui se passe, tu donnes le contrat, puis après ça, il gonfle tout seul. Et tu ne retournes pas en appel d'offres. On va parler avec Mme Bishop un peu plus tard. Parlons de la campagne à Montréal rapidement. D'abord, autant M. Coderre que Mme Plante ont promis de mieux contrôler le monde du logement pour éviter donc des hausses de prix et permettre que du logement abordable soit disponible parce que la crise du logement, elle est quand même réelle. Et ils veulent mettre en place ce qu'on appelle un registre des baux résidentiels. Dans le cas de Projet Montréal, ça se limiterait aux immeubles de 8 logements et plus. Dans le cas de M. Coderre, lui parle d'un registre des baux pour mettre en place un plan là, pour lutter également contre l'insalubrité des logements. Puis obliger les propriétaires à garder ça, disons, de façon correcte, de façon propre. Et l'Association des pompiers de Montréal a décidé d'appuyer Valérie Plante. Bon, le syndicat peut le faire, mais on comprend là, que ça a été la guerre avec Denis Coderre. On se souvient du saccage à l'Hôtel de Ville, on se souvient de tout ça. Il faut juste rappeler quand même, sauf erreur, là, 70, 75, 80 % des pompiers n'habitent pas Montréal. Fait que c'est le genre d'appui là, politique, mais je pense pas que ça va avoir quand même un gros effet. Et M. Coderre lui a décidé qu'il ne fera pas campagne contre les pitbulls cette année. Il n'y aura pas de nouvelle réglementation visant les chiens en fonction de leur race. C'est ce qu'il a déclaré hier. Je vous invite à jeter un coup d'œil à l'émission La Facture ce soir. Il y a une affaire dégueulasse. La chaîne Dormez-vous, qui vend des matelas usagés. Et je voyais le reportage hier de François Dallaire. En gros, là, c'est qu'il y a une politique chez Dormez-vous où, quand tu achètes un matelas, tu peux l'essayer pendant un certain temps. Pendant 100 jours, je pense. Et si t'es pas satisfait, ben tu le retournes. Mais c'est pas indiqué clairement que c'est un matelas usagé. Et le cas qui est raconté, imaginez-vous, là, vous achetez un matelas, ils vont vous le livrer. Il est supposément en liquidation. L'idée, c'est pas ça, mais la personne qui est interviewée dans le reportage dit « Je me lève le matin, puis ça sent bizarre. Ça sent l'antiflogestine. » Il a dit à son chum « T'es-tu fait mal? T'as-tu... pas tout. » Et ça dure comme ça pendant un certain temps, puis l'odeur persiste. Et après avoir porté plainte, le couple a reçu un nouveau matelas puis un bon d'achat d'une somme de 150 $. Et ça a l'air que ça serait pas un cas unique. Eux autres, ils récupèrent, mais ils te le disent pas. As-tu envie de dormir dans le lit, sur le matelas d'une autre personne qui l'a eu pendant une centaine de jours? Alors, aucun commerçant, fabricant, ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse. Ils appellent ça des matelas démo. En tout cas, c'est un reportage bien intéressant. Je vous invite à regarder ça ce soir à La Facture. Ça va vous décourager d'aller acheter chez Dormez-vous, à moins qu'ils changent complètement leur politique.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Il y a un an, Joyce Echaquan mourait dans un contexte honteux, dans un hôpital, l'hôpital de Joliette, négligé, insulté par le personnel. Et elle est devenue en quelque sorte un symbole. Ça a été l'électrochoc qui a permis, je pense, à bien des gens de prendre conscience du racisme à l'intérieur du réseau de la santé puis du traitement réservé à ses patients. Aujourd'hui, différentes cérémonies sont prévues, des lieux seront consacrés à Joyce Echaquan. Elle est devenue un peu le symbole de ce combat pour obtenir du respect. Je fais le point un an plus tard avec le docteur Stanley Volant, qui est chirurgien à l'hôpital Notre-Dame. Docteur Volant, bonjour.
Bonjour, quoi, M. Arcand.
Première question, depuis un an, sentez-vous qu'il y a un certain nombre de choses qui ont changé?
Il y a des choses qui ont changé, des petits pas qui ont été effectués dans le système de santé. Il y a de la formation qui a été offerte pour l'ensemble du réseau, mais environ 1% et moins des gens ont profité de cette formation-là. À l'hôpital de Joliette, des gens au conseil d'administration qui sont adjoints au directeur, au PDG. Il y a des navigateurs, des gens qui accompagnent des gens dans l'hôpital pour s'assurer qu'ils ont le bon service et que ça soit une certaine sécurisation culturelle des patients, mais je pense que c'est encore peu, c'est pas développé à l'ensemble de la province, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, puis on est loin de la coupe aux lèvres.
OK. Qu'est-ce que je devrais savoir? Qu'est-ce qui est important de comprendre si j'œuvre dans le réseau de la santé et que j'ai des patients d'origine autochtone qui se présentent là, à l'urgence, qui se présentent à un département? Qu'est-ce que les employés devraient savoir?
Bien, je pense qu'il y a une connaissance de base qui est négligée au Québec là, au niveau des connaissances des Premières Nations. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'il y a 11 nations autochtones au Québec. Ils ne savent pas la différence. Et souvent, moi, je suis un Inuit, hein, vous savez. Oui. Et les gens me disent, bien, vous êtes Inuit, docteur Volant? Bon, je pense que ça commence bien. Là, c'est les Inuits et nous, on ne se ressemble pas du tout. On est deux nations très, très différentes. Je pense qu'il y a une formation de base à faire de façon générale, juste pour connaître, reconnaître les différences, apprendre un peu de l'autre et aussi de développer tes compétences, c'est-à-dire essayer de voir les gens de façon différente qu'à travers ses propres prismes culturels, ses propres valeurs et d'essayer de comprendre cette personne-là qui arrive à l'hôpital de Joliette ou à l'hôpital de Sept-Îles. Bon, elle est différente de moi, mais pourquoi qu'elle est différente de moi? Mais en sachant ça, ça permet peut-être d'avoir déjà une meilleure approche, plus sensible et une main tendue en disant, quoi Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux comprendre quels sont tes problèmes?
Mais on ne devrait pas traiter tous les patients comme ça.
Je pense que le modèle de la sécurité culturelle amènerait à pouvoir traiter l'ensemble de toutes les différences, qu'on soit d'une autre religion, d'une autre couleur de peau, d'une autre culture, qu'on soit partie de la diversité sexuelle du Québec, on devrait traiter. Malheureusement, il y a encore des différences. Même à Montréal, les gens qui arrivent dans les urgences et qui sont de cette diversité-là ne sont pas traités également comme les autres. Donc, c'est important d'inculquer ce principe-là qu'il faut traiter tous les gens sur un pied d'égalité.
Quand vous dites ne sont pas traités sur un pied d'égalité, ne sont pas traités comme les autres, qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Parce que pour bien des gens, là, la mort tragique de Joyce et Chacoan, je l'ai dit, ça a été comme un électrochoc. On avait de la difficulté à croire que les Premières Nations comme ça étaient traitées différemment dans le réseau de la santé.
Bien, ça fait des centaines d'années, puis moi j'ai bourlingué à travers le système de santé au Québec. Je viens de la région de la Côte-Nord, donc de Baie-Comeau, de Sept-Îles, et les gens de ma communauté, ou de Pessamite ou de Sept-Îles, arrivent à l'hôpital de Baie-Comeau de Sept-Îles en ayant peur de ne pas être traités de façon égale. Il y a des préjugés parce que t'es autochtone, t'es peut-être alcoolique, t'es peut-être drogué, tu ne fais pas d'études. Je vais donner un exemple. Il y a une de mes amies qui est doctorante, qui a un doctorat, et lorsqu'elle a donné naissance, les gens ont dit « Prends-tu de la drogue, de l'alcool? » Elle a dit non. Puis les gens ont dit « Vraiment? » C'est une façon très, très... beaucoup de préjugés à donner en ne connaissant pas la personne. Parce qu'elle est autochtone, il y a plein de préjugés qui viennent avec.
Avez-vous l'impression que le manque de personnel, les pressions exercées, le fameux temps supplémentaire obligatoire, tout ça mis ensemble, cette pression donc amène des gens à perdre patience plus facilement et que les patients autochtones vont se faire ramasser plus facilement?
Il y a 15-20 ans, c'était la même chose, M. Okay. Arcan. Okay. Ouais, ça peut exacerber peut-être des conditions préexistantes, là, mais c'était déjà comme ça 15-20 ans, avant même la réforme Rochon. Qui a fragilisé le système de santé en 1998. Donc, c'est pas d'hier. C'est sûr que l'exacerbation des problématiques d'effectifs médicaux, je le vis. C'est sûr que les gens sont sur les nerfs, sont fatigués. Ça aide pas, mais il y avait une problématique de base déjà préexistante.
Dites-moi, comme médecin, avez-vous déjà senti, là, je parle d'un médecin qui pratique, vous l'avez dit, là, j'ai bourlingué dans le réseau, là, l'avez-vous senti, ce racisme-là, à l'intérieur du réseau, aux endroits où vous avez travaillé, vous?
Oui, je l'ai senti. C'est à travers le réseau, des commentaires racistes ou encore des préjugés que qu'on pouvait m'attribuer parce que j'étais autochtone en disant « d'où viens-tu? » Puis « t'as-tu des problématiques? » Donc, il y a beaucoup de préjugés et des gens qui me disaient « Le fait que tu sois dans l'hôpital où je travaille, je me sens en sécurité parce que je sens que tu vas surveiller ce qui va se passer autour de nous. » Donc, le racisme systémique ou discrimination systémique dans le système de santé, il existe. J'en ai été témoin. Malheureusement, la mort de Joyce l'année passée m'a peut-être donné un électrochoc moi-même parce que faisant partie de l'establishment médical, j'ai comme peut-être fermé les yeux des fois sur certains actes ou certains propos de mes patients qui disaient « j'ai pas été bien accueilli à l'urgence parce que j'étais différent ». Et la vue de voir Joyce mourir sous mes yeux, mais ça m'a donné une claque dans la figure, là, un électrochoc majeur pour dire « maintenant je dois absolument défendre mes sœurs et mes frères » qui subissent cette discrimination-là lorsqu'ils font face au système de santé de québécois et aux Canadiens aussi.
Merci beaucoup, Dr. Volant. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Dr. Stanley Volant, chirurgien et nous. Et donc, je le rappelle, il y aura un certain nombre d'événements pour marquer la mort, il y a un an, de Joyce Echaquan.
L'essentiel de Paul Arcand.
Quand on a débattu de la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé, les syndicats ont dit comprendre, mais en même temps, n'étaient pas très, très chauds à cette idée. Parlaient plutôt de faire des messages d'encouragement, de permettre aux employés de passer des tests. Vendredi, le décret est tombé pour déterminer qui à compter du 15 octobre, devra appliquer ces mesures et donc être doublement vacciné, sans quoi c'est, on le sait, ultimement une suspension sans solde. Semble-t-il que tous les syndicats ne sont pas contre la vaccination obligatoire. Avec nous, le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur. Monsieur Francoeur, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcand.
Je comprends bien que vous n'êtes pas contre la vaccination obligatoire, vous?
Non, exactement. Mais pour nous mettre en contexte, pour mettre vos auditeurs en contexte, disons que nous, présentement, même si le service de police et la ville ou nous-mêmes n'avons pas fait de relevé, de décompte exhaustif, on est convaincu que nos gens sont vaccinés à plus de 95%. Et présentement, nous, les appels que nous recevons à la fraternité de nos policiers policières sont relatifs à des policiers policières qui ne veulent justement pas travailler avec des gens non vaccinés, que ce soit dans le même véhicule de patrouille. Vous comprendrez que dans un véhicule de patrouille, il y a une très grande proximité, ainsi que dans des locaux aussi où il y a une grande proximité.
Mais dites-moi, quelles sont les démarches que vous faites dans ces cas-là quand vous recevez un appel d'un de vos membres là, qui vous dit « moi, je travaille sur tel duo, puis la personne avec moi n'est pas vaccinée ou en tout cas semble pas l'être », c'est quoi vous faites dans ce temps-là?
Ben nous, ce que l'on fait, c'est qu'on garantit à nos gens qu'il n'y a pas personne qui va les obliger à travailler avec quelqu'un qui n'est pas vacciné. Et j'ai avisé la direction du service de police de cette position la semaine passée. Et à notre connaissance, présentement, il n'y a aucun de nos membres, mais je le répète, selon nous, nos membres sont vaccinés à plus de 95%. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun de nos membres qui a été forcé à travailler avec quelqu'un qui n'est pas vacciné. C'est pour ça que je vous dis ce matin, même si c'est pas à nous de décider, si jamais la vaccination devenait obligatoire pour nos membres, nous ne nous opposerons pas.
Maintenant, il arrive quoi avec le policier qui n'est pas vacciné, qui refuse d'être vacciné? Il va être affecté à d'autres tâches? On fait quoi avec?
Ben effectivement, ça va devenir du cas par cas. Là. Il est certain non plus que, comme syndicat, on ne consentira pas, mais pas du tout, à la mise en congé sans solde de ces membres-là. Nous nous engageons à négocier les accommodements. Là, je vous avoue qu'on suit comme tout le monde, comme tout employeur, comme tout syndicat présentement, l'avancée du droit, là, malgré que ça change, l'avancée du droit et de la pandémie, là, malgré que ça change d'une journée à l'autre. Là, mais on va négocier au cas par cas avec la direction.
Mais là, êtes-vous en train de me dire qu'on va se
retrouver... qui ne veulent pas être vaccinés. Ouais.
Êtes-vous en train de me dire qu'on pourrait se retrouver avec un policier anti-vax, les pieds sur le pouf, puis payé par le service?
Ben, on n'est pas rendu là. Je vous dis que même nos...
Parce qu'on a vu à Laval, il y avait un policier qui était dans le genre complotiste, là, puis que lui a fait oui. L'objet de mesures disciplinaires, là.
Effectivement, mais à notre connaissance, ce n'est pas le cas présentement chez nous. Et je vous avouerai que pour le plus de 95% de nos membres qui sont vaccinés, disons que nos membres vaccinés ont très peu de patience avec les gens qui ne le sont pas. Là. Ce sont les échos que nous avons présentement. Là.
OK. Mais vous allez défendre, vous n'aurez pas le choix, c'est le mandat du syndicat, même défendre les anti-vax qui pourraient protester contre les mesures comme celle-là. Vous dites, dans le fond, vous dites à vos policiers ce matin, à vos membres, là, vous voulez pas patrouiller avec quelqu'un qui a pas été doublement vacciné, ben on vous garantit que ça arrivera pas, c'est ça?
Ben c'est ce que l'on dit à nos membres depuis environ 2 semaines, effectivement.
Et vous êtes convaincu qu'il y a quoi, 95% de vos membres qui sont vaccinés adéquatement?
Oui, même en comité paritaire avec des dirigeants du service ces jours derniers, ceux-ci ont exactement les mêmes échos que nous. Nous, on pense que c'est une responsabilité. Puis il y a un principe important en santé et sécurité du travail, c'est-à-dire que les dangers pour la santé et sécurité des travailleurs doivent être éliminés à la source. Donc, effectivement, ce ne serait pas conforme à ce principe important-là de forcer des gens qui sont vaccinés à à travailler avec des gens en grande proximité qui ne le sont pas.
Pendant que vous êtes là, j'ai deux, trois questions à vous poser.
Je sais,
c'est jamais une surprise, mais les questions peut-être vont être surprenantes. Mais Projet Montréal reçoit le soutien de l'Association des pompiers. Est-ce que la Fraternité des policiers va appuyer un candidat, un parti?
Non, la Fraternité n'est pas derrière un candidat et ne sera pas derrière un candidat. La mission de nos membres, c'est celle d'assurer la sécurité des Montréalais et des Montréalaises. Donc, si Mme Plante est réélue, on espère seulement que son intérêt récent pour la sécurité publique va demeurer. Et si M. Coderre est élu, on espère aussi qu'il aura un intérêt lui aussi pour la sécurité publique et on va travailler avec l'un ou l'autre qui sera élu.
C'est quoi le pourcentage des policiers qui habitent Montréal?
C'est 13%.
Ça veut dire que les pompiers, j'imagine, c'est à peu près pareil, là?
Honnêtement, je ne peux pas vous répondre. Ouais. Je ne sais pas pour les pompiers.
Mais quand un syndicat de pompiers dit on appuie Projet Montréal, puis 80% de ses membres n'habitent pas à Montréal, pas un gros appui, là?
Disons qu'au-delà de ça, moi, ce qui me fait rire un petit peu quand c'est sorti dans les nouvelles hier, c'est qu'en entrevue hier matin avec vous, la mairesse Plante, lors d'une de vos remarques ou d'une réponse à vous ou à M. Coderre, a dit qu'il n'était pas que... a parlé de sweet deal entre les policiers ouais. et M. Coderre.
Ouais.
Et aujourd'hui, elle annonce conjointement avec les pompiers que les pompiers la supportent. Fait que je vais laisser vos auditeurs et les résidents de Montréal et les citoyens de Montréal se faire une opinion.
Vous n'avez pas l'air de sa plus grande d'être le plus grand partisan de Mme Plante, là.
Mais moi, comme je vous dis, nous autres, ce qui prime, c'est la sécurité des Montréalais. Nous, on considère que dans le climat actuel, dans le contexte actuel des fusillades, Montréal pourrait faire plus. Nos gens sont épuisés. Nos gens ne répondent plus au téléphone de peur, parce que si nos gens répondent au téléphone en congé, ils sont obligés de rentrer, ne peuvent pas se désister. Donc, nous, on travaille en faveur de nos membres et en faveur de la sécurité des citoyens et des citoyennes de Montréal. Et on considère que la ville pourrait faire beaucoup mieux dans les circonstances.
Mais là, on a annoncé la création vendredi de l'escouade, là, le projet Centaure. Il y a des policiers de Montréal, la GRC à Kwessassiné. Bon. Actuellement, là, moi, j'entends des choses. Je voudrais valider certaines infos avec vous. Là. Il manque combien de policiers à Montréal? Là? Je parle, quand vous regardez l'ensemble des postes, les gens qui partent à la retraite et tout ça, là, il en manque combien?
Ben, bon an, mal an, il manque 250 policiers à Montréal pour des raisons de maladie, de congés sans solde, de congés parentaux, de congés de maternité. Ça, c'est une chose. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en 2017, il y avait 4600 policiers à Montréal. Et en 2021, il y en a 4500. C'est bien beau dire qu'il n'y a pas de définancement, mais bon an, mal an à Montréal, pour les policiers, il y a entre 140 et 200 retraites par année. Donc, si tu ne remplaces pas 25 départs à la retraite par année, tu te ramasses au bout de 4 ans qu'il y a 100 policiers de moins. Et je ne vous cache pas qu'il y a une recrudescence au niveau du travail, que ce soit les fusillades, que ce soit les nouvelles escouades qui ont été créées au niveau cybercriminalité, au niveau agression sexuelle. Et donc, on agrandit toujours par l'intérieur, mais là, je le répète, nos membres ont la langue à terre. On a besoin d'un nouveau souffle. J'étais très heureux hier d'entendre la mairesse, mais j'espère que ça va se concrétiser si elle est réélue. Mais elle parlait de 220 embauches, alors que les prévisions sont de 150 retraites, ce qui ferait un réel plus de 80 policiers. Donc, j'espère, comme on dit, que les bottines vont suivre les babines.
M. Francaire, on me signale en fait, je vais prendre un exemple sur le terrain, là. Vous me parlez de nouvelles escouades. Est-ce qu'il est possible que ces nouvelles escouades ont pour effet de diminuer le nombre de patrouilleurs, de duos sur le terrain? On me donne des exemples dans Saint-Michel, on me donne des exemples aussi où il faut venir en support aux policiers du métro qui sont maintenant intégrés. Bref, que les PDQ sont assez dégarnis à certains moments de la journée.
Vous êtes bien renseigné, M. Arcan. Là, je nommerai pas le poste, là, mais pour des raisons de sécurité évidentes, là, mais je peux vous dire que dans un poste chaud, encore très récemment, il y avait 4 policiers sur un rassemblement pour débuter un corps de travail, et dans les 4, il y en a un qui est assigné à la force corporative de prévention relativement aux armes à feu, et un autre policier qui s'en allait sur un service d'ordre. Donc, il y avait un arrondissement de Montréal où, pendant un corps de travail de soir, il y avait seulement un duo en devoir. Les groupes d'intervention qui sont censés pallier dans ces moments-là étaient aussi occupés compte tenu des fusillades et des différents services d'ordre. Donc, oui, je le répète, là, mais vos informations sont bel et bien vraies.
Mais ça veut dire quoi en pratique? Qu'on fait appel à des duos qui sont dans les postes de quartier autour?
Disons qu'il y a un terme que je déteste en sécurité publique, là, c'est-à-dire qu'on gère le risque, c'est ce qu'on fait servir, là. Et à la décharge du service de police, ils font avec ce qu'ils ont, ils font avec ce qu'ils peuvent, avec les effectifs qui leur sont alloués par la ville, mais effectivement, c'est pas idéal.
OK. Merci, M. Francoeur. Bonne journée.
Bienvenue.
Au revoir. Yves Francoeur est le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal. Et je pourrais donner des cas plus précis. Je le ferai pas, là, pour pas nuire à des policiers qui m'écrivent, là, pour qui, disons, en fait, j'ai les coordonnées et tout ça, là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le service de police de Montréal fait avec ce qu'il peut et ce qu'il a. C'est-à-dire... C'est incroyable de voir, tu sais, le discours, on nous annonce des escouades, ça va être extraordinaire, puis l'embauche, puis voici ce qu'on va faire. Parfait. Mais entre-temps, puis j'ai pas juste des policiers qui m'écrivent, j'ai des citoyens qui sont un petit peu inquiets. Entre le discours de la présence, puis que la police soit visible, puis dans certains PDQ, là, je l'ai pas inventé, puis là, c'est pas là, une pièce de théâtre que je viens de faire avec Yves Francoeur, là. Je vais vous dire, c'est des courriels reçus et accumulés depuis 3, 4, 5 jours de plusieurs policiers. Puis tu mets tout ça ensemble, puis tu dis, OK, je pourrais même vous dire un cas, j'ai même le numéro de la voiture de police, là. Véhicule de patrouille, 2014. 7 ans, le plancher a dû être refait parce qu'il était percé. On parle d'une autopatrouille style pierre à feu. T'sais, ça fait t'sais, les outils de base du service de police.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, on va parler du rapport de l'inspectrice générale de la Ville de Montréal qui a été présenté hier. Un rapport étoffé, mais il y a un dossier qui, évidemment, retient l'attention, celui de la STM. Pour la gestion d'entente là, après appel d'offres pour des meubles, comme on dit, pour l'approvisionnement en fourniture. Brigitte Bishop est avec nous. Madame Bishop, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Qu'est-ce que vous avez trouvé à la STM dans ces contrats? J'ai lu ça hier avec intérêt. En gros, on vend un appel d'offres, on donne un contrat, puis dans le fond, ça coûte pas mal plus cher qu'on pensait.
Ben c'est exactement ça. En fait, on a fait une étude sur les dépassements de coûts à la STM. Il faut comprendre que la STM donne bon an mal an 1,2 milliard de contrats par année. Et donc, on a constaté qu'il s'agissait d'un problème de culture d'entreprise. Donc, lorsqu'on avait un contrat, normalement, c'est soit le montant ou la durée du contrat qui met terme au contrat. Mais là, ce qu'on a compris, c'est que eux, si c'était un contrat de 3 ans, si on dépassait le montant, ben c'était le terme. Donc, on pouvait se rendre à 3 ans, donc faire des dépassements de coûts. Dans les contrats qu'on a évalués, on a réalisé également que c'est peut-être les besoins aussi qui ont été, l'évaluation des besoins qui a été déficiente. Là. Quand on regarde le premier contrat sur les fournitures de bureaux avec une augmentation de 336%, on réalise que l'estimé était une dépense normalement de 1,7 million pour 3 ans, alors que les soumissionnaires ont soumissionné en bas de 500 000 pour 3 ans.
Donc, okay, déjà, mais là, comment on peut se tromper à ce point-là? Je veux dire, c'est pas de la petite erreur, là.
Ben c'est ça, c'est de la grosse erreur. C'est pour ça qu'on a mis ça en lumière. Mais je peux vous dire, c'est ça que la STM a compris. Je pense que c'était un problème de compréhension de la part des gestionnaires. Et donc là, ils nous ont proposé des mesures pour corriger. Il y a une directive qui a été mise, mais là, la directive ne semble pas être suffisante, on s'entend. Et donc là, ils ont mis plusieurs mécanismes. On propose d'ailleurs de mettre une espèce de système qui va donner un red flag quand on arrive à 75% dépensé du contrat. Je pense que ça peut être intéressant. Mais c'est sûr qu'on va surveiller puis qu'on va demander une reddition de compte.
OK, mais je prends une image, là. Si moi, je veux soumissionner, si je veux participer à l'appel d'offres, puis je vous dis, là, c'est une image, puis que je veux vendre 1000 bureaux à la Société de transport de Montréal, je leur fais un prix puis je soumissionne. Si, par contre, c'est 2000 ou 3000 bureaux, ben ça sera peut-être pas le même prix. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se trouvent, quoi, défavorisées quand on joue de cette façon-là?
Bien, c'est sûr, tu sais, c'est toujours un équilibre des soumissionnaires. C'est sûr que quand on change le contrat puis que c'est pas un accessoire, là on dénature le contrat, ben oui, c'est un nouveau contrat. Et oui, ça peut défavoriser la concurrence définitivement.
Donc la STM, d'après ce que je comprends, eux autres ont dit, ben comme par exemple le contrat avec la firme de communication, c'est un contexte de COVID, on pouvait pas tout prévoir. Ça tient-tu la route, ça?
Ben écoutez, ce qu'on conclut, c'est que non, ça tient pas la route. C'est que là, c'est un changement de vocation. Tu sais, le COVID a le dos large, mais pas à ce point-là. Là. Quand on change complètement la nature puis l'objet du contrat, faut faire un nouveau contrat. Là, c'est assez clair. Là.
Ok. Dis-moi, Madame Bishop, là, avez-vous encore beaucoup de plaintes qui entrent, des gens qui vous signalent des choses? As-tu baissé? Ça a-tu augmenté? Il y a moins de corruption, ils sont plus subtils. C'est quoi le portrait?
Ben écoutez, je peux vous dire, mon bureau a toujours sa pertinence.
C'est
oui,
pas ça que je m'en doute. Je veux juste savoir s'il y a plus de plaintes.
On a les plaintes n'ont pas. Oui, c'est sûr que le télétravail a fait que certains niveaux, il y a certains secteurs où les plaintes ont diminué. Par contre, au niveau des plaintes sur les manquements contractuels, on a ouvert le même nombre de dossiers
okay.
que l'année passée. Fait que donc, je peux pas vous dire que oui, il y a peut-être moins de plaintes, mais les dossiers d'enquête où les plaintes sont fondées et donc les dossiers sont ouverts. Fait que ça change pas dans la qualité là, des dénonciations.
On est toujours dans le dossier du déneigement. Des remorqueuses.
Ça, c'est assez sécurisant.
Ça changera pas. Ils savent même pas quelle est la. Quand tu leur demandes, faites-vous de la collision, ils disent non, on fait juste se parler. Ils connaissent pas la définition du mot, fait que ça va être difficile d'abandonner la pratique.
Ben c'est exactement ça. Bon, je pense qu'on va tranquillement leur apprendre la définition du mot. Là, c'est à force d'exemple qu'ils vont comprendre. Ben, à force d'intervention, je pense qu'un jour, le message va comprendre puis le terme collusion va être bien défini.
Merci, Mme Bishop. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir, Brigitte Bishop, et l'inspectrice générale de la Ville de Montréal. Ça, c'est vrai, ça, par exemple. J'ai pas inventé ça parce que j'avais fait une entrevue avec un déneigeur. J'avais dit, faites de la collusion. Non. Elle dit, OK, allez-vous vous asseoir avec vos compétiteurs, vos concurrents? Ouais. Allez, quoi? Ah, deux fois par année au restaurant. OK, qu'est-ce que vous faites? Ben, on parle. Parlez de quoi? Des prix. Ah, on se dit, ben, toi, pogne tel arrondissement. Ben, j'ai dit, c'est ça, monsieur de la collusion. Ben, ouais, non, toi. Fait que, tu sais, c'est. Disons que c'est un peu original.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.